Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui erre dans les couloirs du temps, poursuivi par les figures tutélaires du cinéma des glorieuses années 80 et 90, refusant obstinément de céder la place à de nouveaux mythes. Cela dit, cette apparente incapacité à tourner la page a au moins de notre point de vue un avantage, celui de pouvoir consacrer du temps à des sagas chères à nos cœurs, au moins pour ce qui est de leur début. Ainsi, la sortie de Terminator Dark Fate nous donne-t-elle la possibilité toujours réjouissante d'évoquer les grands moments à la suite desquels il prétend, à raison ou à tort, on va en parler, s'inscrire. On va le faire avec un trio de critiques bioniques venus du futur pour torturer les fans de Joker. Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Julie Le Baron, salut Julie.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné épisode 205 et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Dark Fate, puisque c'est l'actu, un mot du pitch. Le film propose une suite directe au Terminator 2 de James Cameron et convoque pour l'occasion quelques-unes de ses figures essentielles, dont évidemment Linda Hamilton, qui rendosse son rôle de Sarah Connor, toujours en guerre contre les machines tueuses du futur. Ça tombe bien, puisque l'une d'entre elles, un modèle particulièrement avancé baptisé Rev9, incarné ici par Gabrielle Luna, a débarqué au Mexique pour assassiner la jeune Dani, alias Natalia Reyes. Dani, dans son malheur, a de la chance, puisque du futur a également déboulé Grace, un super soldat génétiquement modifié joué par Mackenzie Davis. Les trois femmes vont s'unir, prendre la route du Texas et croiser au passage quelques vieilles connaissances.
I can see you're very upset. I'm going to help you protect the girl.
Nobody else is gonna die because of me.
I'll be back.
Et derrière la caméra, c'est Tim Miller, le réalisateur du premier Deadpool. Et au casting, outre les précités, on trouve un certain Arnold Schwarzenegger, mais aussi un certain Edward Furlong. Un mot, votre avis, sur Dark Fate, avant qu'on en cause plus longuement après. Julie, en un mot.
En un mot.
Allez.
En un mot qui se transforme en trois mots.
Allez,
comme le Rev9,
en trois mots.
Capable de se décupler.
Pas si mauvais. Pas mal. Stéphane.
En un mot.
Ou en trois
en
mots.
En plusieurs mots, tu peux. Tellement meilleur que le Joker.
Tellement. Voilà.
La vache. Juste pour troller.
Ça va être toute la saison comme ça. Ouais. Julien.
Rideau.
Rideau. Ah ouais. Rideau.
Carl.
C'est extrêmement mystérieux tout ça.
Mais oui, mais non.
C'est extrêmement mystérieux. Ça promet. J'ai hâte qu'on en parle à la fin, surtout du rideau. Retour d'abord donc en arrière sur la franchise Terminator, sur le tout premier The Terminator qui a été réalisé par Cameron donc en 84. Est-ce que vous avez un peu un premier souvenir autour de ce film ou peut-être même de cette franchise, Julie? C'est quoi ton premier point d'accroche avec la franchise Terminator? C'est peut-être pas le premier, c'est peut-être le deuxième d'ailleurs.
Mon premier point d'accroche avec la franchise, c'est les deux premiers films.
C'est les deux premiers films.
Je devais avoir moins 5 ans quand le premier est sorti.
Ouais.
Et
moi, j'avais moins 2 ans.
C'est ça. Donc j'étais plus arrêté à l'époque. Mais heureusement, j'avais un grand frère et une grande sœur en fait qui m'ont montré les films alors que j'étais assez jeune. Quoi, et ça m'a marqué durablement.
Quelle image tu gardes toi, du tout premier de Terminator, si on s'intéresse à celui-là en particulier?
L'image du tout premier, non, parce que si tu me parles de Terminator, moi, s'il y a une image que je garde, c'est celle du deuxième, c'est celle des enfants qui brûlent comme des bouts de papier. Enfin, ça, c'est un truc qui est imprimé sur ma rétine à vie.
Je pense sur la rétine de pas mal de gens,
effectivement. Et l'image du premier, c'est assez classique, mais c'est Schwarzenegger qui met des lunettes de soleil pour cacher son œil robotique. Que je n'oublierai jamais non plus.
Forcément, une image iconique aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce projet de Terminator, si on remonte un peu l'histoire? D'où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il nous tombe? Qui se lance
la question à qui? Parce
je
que
sais pas, je regarde. Vous allez tous me répondre. Julie, c'est toi qui avais la parole, c'est toi qui commence.
Je peux commencer, et puis en plus, vous pourrez étouffer. Terminator, d'où ça vient? Donc, ça vient en fait d'un rêve, enfin d'une hallucination due à la fièvre de James Cameron, qui est à l'époque en train de réaliser Piranha 2.
Ouais.
Les poissons tueurs, si je ne m'abuse.
Les tueurs volants,
pardon.
Encore mieux.
Les tueurs volants, donc, qui donnait suite au film de Joe Dante. Et donc ça vient d'un moment de forte solitude pour Cameron, en fait, qui est donc en Italie, avec une équipe de tournage qui ne parle pas un mot d'anglais. Il est considéré un peu comme un tâcheron à l'époque, si je ne m'abuse. Et en plus de ça, il est complètement fauché. Il est obligé, enfin, donc ce que j'ai lu dans une interview, c'est qu'il était obligé de voler de la nourriture sur les plateaux des room service du lieu où il logeait. Et donc c'est tout malade et tout fiévreux qui fait un rêve, donc où il voit une image d'une espèce de torse fait de chrome qui émerge d'une explosion et qui se traîne au sol avec des couteaux de cuisine, quoi. Et donc c'est à partir de cette image-là donc qu'il va développer Terminator. Et donc à l'époque, comme il n'est pas considéré comme un grand réalisateur, il dispose d'un tout petit budget, donc de 6 millions de dollars. Et la suite, elle fait partie de l'histoire, quoi.
Qui se lance à la suite? Allez-y, continuez. Enrichissez au fur et à mesure. Allez-y, c'est une émission évolutive.
C'est aussi un film qui... Ouais, c'est dur.
Vous n'êtes pas en forme aujourd'hui.
Non, mais il y a tellement à dire aussi sur Terminator. C'est un film compliqué. Moi, je pense que c'est aussi un film... Parce que c'est vrai que c'est, cette anecdote que rapporte Julia est avérée. Enfin, il l'a raconté plusieurs fois. On a vu la peinture même. Mais je pense aussi que Terminator, c'est, comme il le fera plus tard avec Avatar, un conglomérat de tout ce qu'il a pu ingurgiter en science-fiction aussi. James Cameron, d'ailleurs, le scénario du film donnera lieu à un procès auprès d'un auteur de science-fiction reconnu. Et c'est vrai qu'il y a des parentés, en fait, dans l'intrigue. Je crois que maintenant,
Harlan Ellison.
Harlan Ellison, oui. Ouais, et il est au générique, je crois, maintenant. Enfin,
à cause du procès, il est au générique à la fin.
Ouais, mais en fait, j'ai toujours trouvé que ce procès était assez injuste, non pas parce que Cameron fait partie de mon panthéon, mais surtout parce qu'en fait, finalement, il a piqué à Ellison, mais comme il a piqué à plein d'autres mecs, en fait. C'est-à-dire que Cameron, avant toute chose, c'est un fanat de SF. Un des projets, en fait, lié à Avatar, pour lui, c'était de populariser des concepts de SF qui n'étaient pas populaires, parce que la SF, ça reste quand même un domaine qui est circonscrit à un petit groupe, en fait, de public, hein. Et du coup, il y a ça, en fait, dans Terminator. Il y a cette façon, en fait, de synthétiser beaucoup, beaucoup de fantasmes de science-fiction qui n'avaient pas été vraiment concrétisés de cette façon-là au cinéma. Et puis, il y a un autre truc qui est cette symbiose hallucinante, et ça, qui est typique de Cameron, de lier les ambitions artistiques du film avec ses capacités technologiques et ses moyens. Je pense qu'il y a... Enfin, je pense pas qu'il y ait un autre cinéaste dans l'histoire du grand écran, en fait, qui ait été capable d'optimiser à ce point-là ses moyens, ou même d'en tirer une force, en fait. Et ça, c'est un truc ahurissant, en fait, quand tu vois le premier Terminator, parce que c'est effectivement un tout petit budget, tourné dans des conditions vraiment ultra difficile, où il n'arrivait pas à avoir, par exemple, les techniciens qu'il voulait. C'est-à-dire que c'est Stan Winston qui a fait les maquillages et le robot, en fait, du premier Terminator. Mais lui, James Cameron, il ne voulait pas du tout Stan Winston, parce qu'il n'était pas super réputé encore à l'époque. Il voulait Dick Smith, qui était le grand maquilleur, qui avait fait l'Exorciste, le Parrain, tout ça. Et c'est Dick Smith qui a dit non. Déjà, votre budget, là, il est tout petit. Il y a une énorme... vous avez une ambition qui est délirante là-dessus. Donc, moi, je ne le fais pas. Mais par contre, vous pouvez aller taper à la porte de ce jeune mec. Bon, il était plus très jeune, déjà, Winston, mais qui a réuni autour de lui, par contre, des mecs qui étaient très, très jeunes et qui ont énormément donné d'eux-mêmes et donné aussi beaucoup de temps, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir beaucoup de temps, en fait, en pré-production aussi. Hein. C'est ça aussi qui a permis au film d'obtenir son argent. Et puis un autre truc aussi, je pense, dans le premier Terminator, c'est que moi, j'ai été frappé, comme tout le monde, par l'image dont parlait Julie, par l'exosquelette, enfin le squelette métallique qui sort des flammes à la fin, par toutes ces images, la guerre du futur au début. Mais je pense que ce qui me reste au final, c'est l'histoire d'amour, qui est une des plus belles que j'ai vues, même au cinéma. Enfin, je trouve qu'elle est incroyable, cette histoire d'amour. Et comme dans Avatar, je suis désolé de revenir à ce film-là, mais je trouve que c'est quand même deux films qui se font écho sur plein de choses. Pour moi, d'ailleurs, c'est peut-être ces deux meilleurs films, en fait. Moi, j'aime beaucoup Abyss, mais enfin, je sais pas, c'est compliqué. Mais bref. mais comme Avatar, ce qui est génial, en fait, c'est comment il arrive à, à sublimer la romance par des purs concepts de SF. C'est-à-dire que l'histoire d'amour dans Terminator, elle tient parce que c'est une histoire de voyage dans le temps. Mmh. Et ça, c'est un poids fondamental. C'est-à-dire que le rapport de Reese, le fait que Reese soit parti dans le passé, qu'il connaisse la photo de Sarah Connor auparavant, le rapport avec John Connor dans leur couple, etc., c'est un truc incroyable, quoi. Et ça s'inclut incroyablement bien, en fait, dans cette histoire d'apocalypse et dans ce récit purement mythologique. Enfin, voilà, John Connor, c'est pareil, c'est un poncif, il l'a dit plusieurs fois, mais les initiales, c'est JC, donc pour Jésus-Christ. Je pense que d'ailleurs, ça, c'est un truc, enfin, on en parlera pour les suites, mais je pense que c'est un concept, John Connor. Mmh. Et ça, c'est un truc intéressant qu'ils ont fait sur le dernier. C'est que pour moi, c'est un personnage que tu ne dois pas voir, en fait. Mmh. C'est un concept, c'est un idéal. Tu aspires à l'avoir, tu aspires à le créer, en fait. Mmh. Et voilà. C'est un film assez hallucinant et dont je me lasse jamais de désosser toutes les astuces techniques. Aussi, on pourrait faire un ciné de 5 heures là-dessus.
Non, mais on le fera un jour.
Mais je ne le ferai pas. Mais non, mais je voilà, sinon je relance, c'est horrible.
Stéphane.
Alors, moi, pour moi, Terminator, c'est un exemple vraiment parfait de série B. Dans le meilleur sens du terme, en fait. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs scénars. Et là, je parle vraiment de scénar, hein, vraiment que j'ai pu voir en fait au cinéma, en tout cas en grandissant à l'époque et tout. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il tient vraiment extrêmement bien la route parce qu'il arrive à faire passer tous ces concepts qui sont quand même extrêmement tortueux, extrêmement compliqués à faire comprendre, très très facilement. L'histoire d'amour dont parle Julien, c'est un homme qui traverse le temps pour retrouver la femme qu'il aime. Il n'y a pas plus romantique, je trouve. Enfin, moi, je cherche même dans des films d'amour, tu vois, il n'y a pas aussi beau. Tu vois, que ça, quoi. Et alors certes, peut-être que ça fonctionne parce que c'est dans un tout, c'est-à-dire dans un film d'action, dans un film de SF, dans tout ça, mais le cœur du film est vraiment là. Et après, il y a une alliance, en fait, la réussite aussi, je pense, du film de manière générale, c'est que sur ce scénar qui, moi, je trouve à l'épreuve, en fait, des balles, on va dire, tu peux vraiment prendre dans n'importe quel sens, il fonctionne, il prend tous les risques possibles, en fait, pour faire ce film-là, quoi. Il va quand même, malgré le fait qu'il a pas d'argent, il va te montrer en fait des scènes futuristes en fait qui sont moi je trouve encore très 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 bien qui fonctionnent très très bien encore je trouve à l'écran quoi. Voilà. Tu parlais des images qui marquent. Moi je me rappelle et je crois que si je bats dessus c'est son pote à Arnold en fait qui joue le rôle c'est Franco Colombo donc qui joue le rôle de l'autre T-800 en fait qui apparaît dans le futur.
Ouais, qui infiltre avec juste les yeux laser.
Voilà. Et moi je me rappelle que quand j'étais gamin c'était une scène qui m'avait vraiment marqué en fait son apparition parce que tu savais que c'était pas Arnold.
Mais le premier Terminator est presque un film d'horreur d'ailleurs.
Ah oui, il y a plein de scènes comme ça. Mais de toute façon c'est un mix ce film en fait. Il a des scènes d'action, des vraies scènes d'action telles qu'on en faisait dans les années 80, des vraies scènes horrifiques. T'as la scène justement où il vient pour la première fois tuer Sarah Connor, il se trompe et en fait il tue sa coloc. Voilà, ça c'est une scène d'horreur, tout au ralenti, etc., etc. Donc en fait il maximise énormément tous ses effets. Il y a des scènes, je veux dire, moi il y a même des scènes de dialogue. Les gens retiennent le I'll be back de Schwarzenegger, tu vois, évidemment, mais moi je me rappelle le truc de la tempête arrive, tu vois, à la fin où c'est tellement incroyable. Parfait pour terminer le film, en fait, c'est tellement fort. C'est ça aussi qui fait que d'un seul coup t'avais envie de voir la suite quand t'étais gamin, tu disais, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas une suite en fait à ce film, quoi. Et du coup, c'est une espèce d'alliance comme ça où, quand t'étais gamin, je vois Julien qui était en train de râler là, dire, il faut pas faire de suite.
Non, je suis pas sûr en fait que j'ai attendu en fait.
Julien n'était pas gamin en 84.
Elle était magnifique.
Il avait 34 ans.
Voilà, merci, ça c'est gentil.
Moi je l'ai attendu, mais je l'attendais vraiment. Et quand ils ont fini par vraiment l'annoncer, quand il y a eu la bande annonce du 2, c'était dingue quoi. Et il y a donc cette alliance en fait entre Cameron et celle qui, je sais pas si c'était déjà sa femme à l'époque sur le tournage, Galen Hurd quoi. Il y a vraiment en fait une alliance entre le réalisateur et le producteur, soudés l'un contre l'autre en fait pour arriver à mener ce projet à terme quoi. Alors arriver à mener ce projet à terme avec effectivement quand même des gens talentueux comme Stan Winston, etc., etc. Arnold qui était quand même déjà commençait vraiment à devenir une star. Arnold qui à la base en fait devait jouer et il a failli refuser le rôle du Terminator. Parce qu'il avait 27 lignes de dialogue, je crois, en fait, dans le film.
Et puis il devait jouer Reese aussi.
Et en fait, Cameron n'en voulait pas pour Reese. Et il s'est rendu compte qu'en fait, Arnold pouvait vraiment incarner le méchant, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, le Terminator, ça devait être Lance Henriksen. Et Lance Henriksen, ça devait être une ébauche du T-1000. Parce qu'elle est devenir le T-1000.
Ah, Lance Henriksen, c'est celui qui joue Bishop dans Alien. Oui. Voilà. Hein, il joue un des deux commissaires.
Il joue un des flics dans le commissariat, dans la fameuse scène du commissariat. Ouais. Et en fait, c'était lui qui devait jouer le rôle du Terminator. Et il devait Alors, on a aussi parlé d'O.J. Simpson. Heureusement que ça s'est pas fait parce que là, ça aurait été dantesque, je pense.
Hyper gênant.
Voilà.
Surtout qu'en plus, il avait été refusé parce qu'il était considéré comme trop sympathique auprès du public pour jouer.
Oui, mais c'était la prod en fait.
Alors que c'était prémonitoire quelque part.
Voilà. Et du coup, en fait, comme c'était une espèce d'ébauche du T-1000 et que là, vraiment, c'était pas possible de faire ça avec les effets spéciaux et les moyens de l'époque, en tout cas les moyens que Cameron avait, en fait, ils sont vraiment rabattus sur Terminator et ça a créé c'est une créature du fantastique ou de la SF, en fait, telle qu'il y en a finalement, ces 15-20 dernières années, très très peu, en fait, qui ont été créées, quoi. Donc quand je dis c'est un exemple de série B, c'est aussi un exemple de série B philosophique, c'est-à-dire tout ce que ça draine en fait comme concept philosophique en fait qui va vraiment mener à terme, et y compris dans les suites de merde qui ont été faites derrière, qui viennent en fait de ce que Cameron a mis en place, c'est très très fort. Et après il y a lui ce qu'il appelle le coup de bol en fait, c'est-à-dire que bon, il y a Arnold d'un côté, il y a Michael Biehn, et puis il y a Linda Hamilton en fait qui joue Sarah Connor et qui moi, je trouve déjà excellente hein, dans le premier où elle joue ce qui est finalement une figure très très forte chez Cameron en général, quoi. C'est-à-dire ce personnage féminin qui va s'extraire en fait de sa condition de everyday woman pour vraiment en fait ce qu'on appelle le woman empowerment aujourd'hui, quoi. C'est vraiment elle pour moi, pour le coup, elle le représente, et avec la suite c'est une évidence.
Oui.
Et ce qui est fort en fait, c'est d'avoir réussi à parier sans même le savoir en fait que cette actrice là, elle allait se donner à ce point à fond en fait pour Terminator 2, parce que c'est vraiment une performance de dingue dans Terminator 2. Mais ça, on va revenir dessus, mais voilà. Donc c'est, pour moi, c'est il y a un côté. C'est pas un film parfait parce que il est un peu dans l'air du temps quand même. Il ressemble un peu à un film des années 80 par moment, même si c'est pas ça l'ancre dans le quotidien. C'est pas très grave.
C'est pas grave parce que ça a assumé. C'est comme Entre le futur quelque part. Enfin, c'est assumé dans les années 80.
Plus celui-là en fait. Et par exemple, la scène de sexe, elle est un peu filmée comme une scène de sexe des années 80. Ce genre de choses.
Mais pas ça reste un modèle d'écriture aussi. C'est peut-être un truc. Le fait que l'exposition soit dans l'action. C'est pas des trucs qui se faisaient forcément en fait auparavant, c'est-à-dire que Calaris, quand il lui explique à Sarah Connor comment ça se passe, etc., c'est pendant une poursuite en voiture, quoi. C'est génial comme idée, quoi. Et l'apparition aussi des deux antagonistes au début, et comment ils se renvoient, et comment il y a un effet miroir en fait dans leur présentation. Il y en a un qui est dans une position de vulnérabilité totale quand il était présenté, c'est un clochard, etc. Puis l'autre, c'est un demi-dieu qui descend sur Terre et qui expédie à Ad Patres des gros dur, quoi. Rien que ça, enfin, ça te plante tout de suite. Il y a cette faculté chez Cameron, c'est un truc de fou quand même, parce que c'est quand même son vrai premier film. C'est incroyable déjà d'avoir une telle maîtrise en fait du langage cinématographique, quoi. C'est le truc où les gens après te disent, ah non, mais le scénario est un peu simple. Non, il est pas simple, il est limpide.
Ouais, il est tout sauf simple. Ah oui,
c'est pas du tout
la même chose.
Ouais.
C'est sa grande force, effectivement. On parlait de suite, il va falloir attendre 5 ans pour voir Terminator 2. 6 non, pas 5 ans du tout, 7 ans.
Ouais.
7 ans,
je fais 84-91.
Ouais, 91, ouais. Donc il faudra attendre 7 ans pour voir la suite. Julie, je te donne la parole en premier parce que je sais que c'est ton chouchou dans cette saga Terminator 2.
Oui, mais comme tout le monde, j'ai l'impression
que c'est le chouchou d'un peu tout le monde, évidemment.
Il est quand même universellement reconnu comme une des meilleures suites de tous les temps.
Terminator 4, la série télé.
Et non, en plus, qui est vraiment une suite impressionnante. Déjà parce que là, James Cameron dispose des moyens de son ambition, enfin, même s'il était capable effectivement de se débrouiller avec les moyens du bord pour le premier. Mais là, disait Stéphane, on était dans une série B avec le premier. Là, dans le deuxième, on est dans un gros blockbuster. Moi, je trouve que c'est vraiment très très réussi parce que ce qu'il apporte en fait dans sa saga, tout repose en fait sur la relation qu'il a, moi je trouve, avec Edward Furlong, donc qui signe son premier grand rôle. Toute cette réflexion qui est amenée en fait sur ce qu'est une machine, comment elle doit rester fonctionnelle jusqu'à ce qu'elle accomplisse sa mission et tout, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé vraiment fantastique. En fait, toute la relation en fait qui unit les deux pour moi porte le film. Pour moi, le 1, ouais, comme tu dis, a une très belle histoire d'amour. La deuxième, c'est une très belle histoire d'amitié, en fait, où on se surprend. Enfin, il y a déjà ce truc, quand même, qui est assez incroyable, où donc on est persuadé, dès le début, en fait, on revoit Schwarzenegger et on se dit que ça va être à nouveau l'antagoniste du film, avant de se rendre compte que c'est Robert Patrick, qui est vraiment, vraiment excellent dans le rôle du T-1000, quoi. Et en plus de ça, il y a donc ce fossé technologique entre le T-800 et le T-1000, qui est donc beaucoup plus puissant, capable de prendre la forme de n'importe qui, de passer à travers des barreaux, et où là, pour le coup, donc Cameron peut mettre en place ce qu'il a toujours voulu faire. Et voilà, enfin, c'est... C'est tout ça pour Terminator 2. C'est en gros tout ce qu'il n'a pas pu faire dans le 1 parce qu'il avait besoin de faire ses preuves avant et c'est parfaitement réussi, quoi.
Pardon,
j'allais poser la question.
Non, vas-y, Thomas.
Merci, Julien. J'allais poser la question en termes de tout simplement chronologique. Pourquoi on attend Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 7 ans? Est-ce que c'est des raisons techniques et des raisons
de droit
de,
en fait, James Cameron a vendu les droits pour $1. En fait, à l'époque où il a fait le premier d'argent. Film, parce qu'il n'avait pas de
d'argent, en l'occurrence.
Ouais. Et il était camionneur à l'époque, donc en fait, il a vraiment joué il a parié sa carrière cinématographique sur ça, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, le grand bien lui en a fait sur le succès du film, mais c'est un succès en fait qui s'est fait sur les bases du film, parce que le studio, c'était MDale, je crois, en fait, qui a produit le film. En fait, lui a vraiment mis des bâtons dans les roues. Il s'est battu avec le prod. John Daly, qu'il a dû faire, parce que Cameron était déjà James Cameron à l'époque, en fait, il l'a fait virer de la salle de montage, parce qu'en fait, au moment où justement il y a cette scène finale du premier Terminator, où le Terminator apparaît dans son endosquelette métallique, en gros, il n'y avait pas encore les effets spéciaux, et quand John Daly a vu le film, il a dit on coupe là, toute la fin, j'en veux pas. Et Cameron lui a dit va te faire foutre, et il l'a vraiment foutu, il l'a sorti de la salle de montage.
De la salle.
Voilà, et en rétribution, quand le film a commencé à marcher, qu'il fallait vraiment ouvrir le parc de sortie en fait pour lui donner un plus gros succès, M'Dale et Daly en fait sont restés les bras croisés à rien faire, quoi. Donc M'Dale en fait a fait faillite quelques années après et les droits ont été mis en enchères et c'est Arnold en fait qui faisait un film avec Carol Co et donc Mario Casar et Andy Vajna, ils faisaient Total Recall à l'époque, qui leur a dit vous achetez les droits. Si vous achetez les droits, nous on fait le film. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Et ils ont acheté les droits pour, je crois, $5 million, ce qui était monstrueux à l'époque, aux enchères. Quoi, voilà.
Énorme.
Et donc, c'est déjà, ça plaçait le film. Enfin, c'est quasiment le budget du premier film. Hein, donc, rien que pour les droits, quoi. Donc, en fait, Cameron leur a dit clairement OK, donc moi, je fais ce que je veux sur ce film. Et le tarif, par contre, c'était ils avaient 1 an et demi pour faire le film.
Ouais.
Donc, en fait, au moment où les droits ont été achetés, je crois Arnold était encore sur Total Recall. Cameron, en fait, a écrit le scénar en 3 mois. Ils l'ont balancé à Cannes, je crois, ils ont filé le scénar à Cannes pendant, je crois que c'était pendant le jet privé quand ils sont partis là-bas. Personne ne l'avait lu.
Il l'a filé à Arnold. Il est arrivé, ils ont retardé en fait le décollage de l'avion. C'est véridique, hein. Ils ont retardé le décollage de l'avion parce qu'il était en train de terminer le scénar en fait. Voilà.
Et ils ont annoncé la date de sortie à Cannes.
C'était Carol Co.
Ce qui est très drôle, c'est que Arnold à l'époque disait que c'était le scénar rêvé et tout. Et en fait, il en a parlé récemment, il y a 2 ans, quand ils ont ressorti Terminator 2 3D. Et il a dit mais moi j'étais pas content, je joue un gentil, qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est une... Tu vois. Mais en fait, ça il l'avait jamais dit. Il l'avait jamais dit jusqu'à là, il y a récemment en fait. Parce qu'il se lâche un peu plus Arnold sur sa carrière ces dernières années. Quoi. Voilà. Et en gros, il disait ça va pas marcher. Or, tout le principe justement du film, tout le principe de Terminator 2, ce qui est absolument génial, c'est comment faire un film dans la continuité. C'est-à-dire, même si c'est 100 fois plus gros, mais en même temps, tout en surprenant les gens, en fait. Et ça fait partie du principe. Et en plus, ça s'inscrit dans, on va dire, la thématique générale de Cameron, qui est son rapport à la technologie, son rapport à la nouveauté et en fait au progrès, quoi. Et ça peut en même temps paniquer de ça, parce que d'un côté, il y a sa trouille en fait de l'holocauste nucléaire et d'un autre côté en fait son désir de progrès qui s'inscrit dans son projet de réalisateur en fait de manière générale, quoi.
Et au cœur du film, il y a déjà, on l'a mentionné, il y a le personnage de Sarah Connor qui revient et qui est une réinvention totale, une réincarnation totale du premier
logique.
Mais ça c'est assez incroyable parce que la transformation est très réaliste,
même physique.
C'est incroyable, elle est tout à fait crédible en guerrière.
Elle extériorise c'est toutes ses angoisses en fait. C'est ça qui est assez ouf, c'est physiquement, c'est à dire elle est tellement dans la peur d'un lendemain post-apocalyptique, qu'en fait elle est surpréparée. C'est elle le Terminator, c'est elle qui en fait est devenue une arme de guerre,
machine,
en fait. Voilà. Moi je trouve que elle est incroyable, Linda Hamilton, dans le rôle, quoi. Et elle est Cameron, je crois, avait fait une espèce de campagne en fait pour qu'elle soit nommée aux Oscars, pardon.
Oui.
Et en fait, ça n'a pas du tout pris, quoi. Voilà, ce qui est dommage parce qu'effectivement, elle est vraiment super, moi, je trouve, dans le film, quoi.
C'est vrai qu'au-delà de la performance physique, moi je me souviendrai toujours de la scène justement où elle parle de cette explosion dans un parc pour enfants où tout le monde la croit folle. Toutes les scènes dans l'hôpital psychiatrique, elle est vraiment fabuleuse dedans. Fin...
Mais ce qui est intéressant de T2 aussi, c'est que c'est la même chose. C'est-à-dire que tu peux te dire, mais aujourd'hui, ça, c'est dans l'évidence, en fait, tout ça. Et il n'y a rien qui était évident. Moi, je me souviens encore qu'à l'époque, Cameron, il devait expliquer pourquoi il y avait un nouveau T-800, en fait, qui était là. Ouais. C'était pas du tout évident pour les gens. Je veux dire, le truc que tu avais attendu pendant tout le premier film, c'était le tuer, quoi. Le truc, c'était un Terminator. Il était, tu pouvais pas l'arrêter. Et donc, tu l'avais arrêté.
Ouais.
Donc, c'était dédramatique au possible, a priori, de le faire revenir sur le deuxième. Donc là, il a eu aussi l'intelligence de lancer un premier teaser qu'il a pas réalisé lui, c'est Stan Winston qui l'avait réalisé, où on voyait les T-800 se fabriquer à la chaîne.
Ouais.
Ce qui était un signal super fort, c'est-à-dire qu'on disait bah, il va y en avoir plusieurs, enfin, il peut y en avoir plusieurs, c'est une possibilité, il peut y en avoir d'autres. Et puis, ça va être exponentiel, vous allez en voir beaucoup plus, quoi. Ouais. Et ça, c'était...
Ce qui fait que les gens ont attendu ce qu'il y ait plusieurs Arnold, en fait, dans le film.
Oui, oui, et Julie parlait, en fait, tout à l'heure du défi technologique. En fait, évidemment, il y a tout ce qui est image de synthèse et morphing, tout ça, ça a lancé une vraie mode, hein, ouais. T2. Ça n'a pas été la révolution que tous espéraient, hein, d'ailleurs, à l'époque. Mais la vraie grosse révolution, en fait... C'est difficile de dire ça comme ça, mais le truc qui était hyper important pour les mecs des effets spéciaux et passé à la trappe en fait du grand public, c'était l'incrustation des personnages par ordinateur. C'est-à-dire qu'on les faisait plus à la tireuse optique. Auparavant, c'était plus photochimique. C'est-à-dire que déjà le film était passé dans l'ère du numérique en fait. Et Cameron était passé dans l'ère du numérique. C'est peut-être un peu trop pointu ce que je viens d'expliquer,
ouais,
mais c'était voilà. Le truc qui était intéressant, c'est que non seulement il y avait ces trucs d'incrustation de personnages en fait par ordinateur, qui était donc beaucoup plus fin, beaucoup plus joli, etc. Mais du coup, il pouvait déjà commencer à retoucher l'image, inverser un panneau, effacer des câbles, par exemple. C'était des choses qu'on ne voyait pas auparavant et qui commençaient à ouvrir beaucoup, beaucoup plus de perspectives, en fait, au réalisateur du futur. Et je parlais tout à l'heure pour le premier Terminator de cette symbiose, cet écho entre la façon de concevoir le film et le propos même du film. C'est une trouvaille incroyable et géniale, en fait, d'avoir confronté le T-800, qui est un peu, sur plein d'aspects, en fait, un des pinacles des effets spéciaux à l'ancienne, on va dire, pratique, 80, de marionnetterie, d'image par image, etc. Donc, de le confronter à ce qui était un truc tout naissant, qui était l'image de synthèse.
Ouais.
Les deux, c'est ça aussi qui fonctionne dans T2. C'est-à-dire que là, on peut dire, ah, bah, vous parlez technique. Et c'est... Non, la technique, encore une fois, c'est le propos, c'est la narration,
c'est le sens
au cinéma.
Ouais.
Et là, ça fait complètement sens. C'est aussi pour ça que ça fonctionne et que c'est aussi évident que de façon immédiate, tu dis, ah, mais ce petit gars flué, bon, il n'est pas si flué que ça, hein, Robert Patrick, mais par rapport à Schwarzy, tu dis, ah ouais, mais il est hyper dangereux, lui, en fait. Il est hyper dangereux parce que tu comprends intrinsèquement qu'il fait partie d'une technologie qui dépasse, mais largement, celle d'Arnold. Et ça, je pense qu'elle est, quelque part, même si c'est de façon inconsciente pour le public, extra-diégétique, en fait, au film. Est-ce que je peux rajouter un tout petit dernier
truc ?
Un tout petit truc. Je vous invite aussi à regarder T2 comme un film écho au premier. C'est-à-dire que c'est ça, c'est un truc qui fait beaucoup attendre les suites d'Avatar. Je reviens encore sur Avatar, faut que j'arrête, mais c'est un, il reprend en fait des plans ou des modes de fonctionnement, ou par exemple la scène au ralenti, etc., qui font écho au premier film. C'est hyper intéressant en fait de voir comment il aborde en fait une suite, en fait, Cameron.
Sur la question de T2 et notamment de la version T2 3D, je vous invite par ailleurs à remonter le flux de nos ciné, à écouter l'épisode entier que nous avons enregistré avec mon camarade Rafik Djoumi, camarade et néanmoins ami Rafik Djoumi, que nous avons fait sur scène au Club de l'Étoile, car on fait régulièrement des choses sur scène au Club de l'Étoile. C'est devenu beaucoup plus compliqué la franchise Terminator quelques années plus tard, un peu plus de 10 ans plus tard, 12 ans plus tard précisément, avec Terminator 3, Rise of the Machine. Stéphane, lève le doigt, c'est comme à l'école, c'est incroyable.
Il y a quand même un T3 intermédiaire. Il faut le préciser,
c'est le
T2 3D en fait, qu'il a fait en 96. C'est Cameron qui l'a réalisé, c'est quand même un budget de 60 patates, c'est un très très gros truc. Et c'était en fait une attraction au studio Universal. Je crois, Julien, toi tu l'as vu, moi je l'ai vu aussi, tu peux le voir sur le net, si tu cherches un peu, voilà.
Et ça... elle est encore à Tokyo, non?
Je sais pas, mais en tout cas je sais qu'à Los Angeles il y est plus. Et en gros, c'est vraiment un truc où t'as à la fois des cascadeurs en fait qui sont sur scène. C'est vraiment une grosse scène d'action, une scène de poursuite dans le futur, et qui se termine par un clou en fait qui est le T1 million en fait, qui apparaît comme ça à l'écran, qui fait trembler les sièges, et t'as des cascadeurs en fait qui jouent le rôle sur scène. C'est narrativement, c'est un peu anecdotique, on va dire, par rapport évidemment au reste de la saga, enfin en tout cas aux deux premiers.
Surtout mais... que ce T-1000, c'est un peu bidon, quoi.
Ouais, mais oui, oui, ça n'a pas la cohérence du T-1000, on va dire. Non, voilà, c'est vraiment un truc pour faire plus, quoi. Mais en tout cas, quand tu vis ça pendant 12 minutes au Studio Universal, c'est hyper kiffant. C'est,
voilà. C'était la première fois qu'on voyait Cameron en relief, quoi, aussi. Hein. Ça, c'était.
Voilà, c'était
Osaka, c'est à l'Universal Studio d'Osaka, je crois qu'il y a encore, mais je suis pas sûr.
Donc, ça, c'est ce truc, on va dire, c'est le dernier. Terminator jusqu'à donc Dark Fate où il a vraiment bossé sur le scénar et tout ça, etc. C'est le dernier Terminator qui a été fait par Cameron, quoi. Donc il fallait quand même le préciser. Et effectivement, après, il y a eu T3, puisque encore une fois, Cameron s'est posé la question de si, après Titanic, après le succès, est-ce qu'il récupérait les droits de la franchise ou pas. Et en fait, il a décidé de passer à autre chose. Il a estimé qu'il avait fait tout ce qu'il avait à faire sur la franchise. Et finalement, il a décidé de lâcher prise. Les droits ont été re-récupérés parce qu'ils ont été perdus par la faillite de Carolco. Ils ont été re-récupérés par Carolco quand même, avec Galen Hurd.
C'était plus vraiment Carolco.
Non, c'était C2, ça s'appelait C2 et en fait, ouais. Ils ont vraiment relancé ça que... Enfin, pas que, mais en fait, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé au final. Vajna est mort cette année, mais Kassar est encore vivant. Mais à l'époque, en fait, si tu veux, c'est ce qui s'est passé, c'est que C2, c'était Carolco 2, quoi, en gros. Finalement, ils ont produit, je crois, Terminator 3 et Basic Instinct 2, quoi. Voilà. Ouais. C'est en gros les deux.
Quel est gros truc.
Voilà. Et T3, ça avait été quand même un gros blockbuster, hein, à l'époque de sa sortie en 2003. C'est un film aussi que Cameron a refusé. Ils lui ont proposé en premier. Hein, il a dit non. La raison, moi, j'aime bien, ça me fait marrer. Donc, je la replace à chaque fois que je peux, cette anecdote, c'est si vous pouvez pas me laisser faire péter une vraie bombe nucléaire, je ne fais pas T3. Moi j'adore parce que ça ressemble tellement à Cameron où tu te dis, je pense que tu es dans une réunion avec lui, tu te dis ça, tu demandes la question si tu poses vraiment sérieux ou pas. Et voilà, et du coup c'est un film qui a été récupéré par Jonathan Mostow. Le film il est anecdotique, oui. C'est-à-dire, alors c'est pas un mauvais film, mais c'est pas vraiment un bon film non plus. Le problème de Terminator 3, pour moi, c'est surtout que c'est une espèce de mise à jour de T2 avec des éléments du premier Terminator.
Réalisé par le mec qui a fait U571 avec John Bon Jovi.
Mais qui était plutôt sympa, bien, U571. Hein, voilà, tu fais le malin là, avec ton T-Rectus, mais c'était sympa.
Tu l'as vu?
Ah oui, j'ai vu au cinéma.
Et Breakdown, c'était pas mal aussi,
c'était super.
Ah, Breakdown, c'était bien.
Mosto, ça s'est gâté après.
U571, moi j'avais trouvé ça chaud déjà. Non, mais Mosto, bon, bref, on
Mosto, c'est un mec à l'ancienne.
D'une autre émission.
Mosto, c'est un mec un peu à l'ancienne. Il a vraiment une logique de facture classique.
C'est un écrivain, enfin, c'est un scénariste aussi.
Et donc, le truc, c'est que sur Terminator 3, on va dire que je pense qu'il a été coincé par les impératifs. Pour le coup, en fait, Cameron, tu lui dis pas quoi faire. Mais en fait, si Cameron n'est pas là, et ben, je pense que c'est Vajna et Kassar qui mènent vraiment la danse. Oui. Et du coup, en fait, le problème, moi, je trouve, de ce film, c'est qu'il n'apporte vraiment rien à la mythologie de Terminator, parce que la Terminatrix, en soi, c'est une version féminine du T-1000, avec une mise à jour internet, on va dire, voilà. Enfin, elle a le Wi-Fi, quoi, elle a 4G. Enfin, je sais pas, c'était à 3G,
encore,
quoi, je sais pas ce que c'était, mais elle a le Wi-Fi.
2003,
quoi.
Quand même.
Voilà. Bah, en tout cas, elle se connecte sur internet, hein. C'est comme ça qu'elle trouve les gens au début, toi. Et après, il y a que deux petits éléments, je trouve, en fait, qui faisaient un peu évoluer la mythologie. C'est-à-dire que comme c'est vraiment centré sur John Connor, parce que Sarah Connor disparaît complètement à cause du fait que Linda Hamilton ne voulait pas reprendre le rôle, donc ils ont expédié le personnage. Enfin, ils ont dit voilà, elle est morte d'un cancer, ce qui est un peu
terrible.
Voilà.
Ouais, c'est triste fin pour
voilà,
Sarah
Connor. C'est clair.
Les deux éléments, en fait, pour moi, en tout cas dans Terminator 3, qui font un petit peu évoluer la saga, c'est ce passage où le Terminator qui revient, le T-800 qui revient, donc toujours incarné par Arnold, est celui en fait qui a tué John Connor dans le futur. Donc ça, c'est un élément mais qui est à peine dévoilé, mais qui est vraiment pas plus poussé que ça, quoi. Et la fin, qui est une vraie fin apocalyptique, donc, et qui, comment dire, et qui était assez jolie en soi, quoi, dans le cadre de la saga. Quoi.
Et qui est intéressante parce que Terminator a ce site particulier, la saga Terminator a ce site particulier qu'elle croit au fatalisme, en fait. C'est-à-dire que les films de voyage dans le temps américain, et ça, je pense que c'est c'est dans la philosophie des États-Unis, en fait, ne croient pas à la fatalité des événements.
C'est toujours possible d'altérer le cours des choses.
Terminator, depuis le premier, il y a une scène coupée d'ailleurs qui est super intéressante dans le premier Terminator où en fait la puce qui reste du T-800 écrasé est récupérée par les mecs qui vont fonder Cyberdyne et du coup
tout était là, quoi.
Et tu te dis donc en fait c'est elle qui, en écrasant cette tête-là, va donner naissance en fait à Cyberdyne et à tout ce qui va se passer ultérieurement. Et il y a toujours ce truc de c'est fatal, c'est ça va arriver, de toute façon, on va crever. Et au moins, il avait compris ça, Mosto. Après, le problème, c'est que déjà, là, pour le coup, il y a une très très mauvaise gestion des moyens. C'est-à-dire qu'il y a une énorme scène d'action au début, puis après, c'est super cheap. Le soulèvement
qui est plutôt cool, hein, cette scène.
Mais le soulèvement des machines en soi, c'est assez triste, quoi. Enfin, c'était déjà triste à l'époque, là, aujourd'hui, ça l'est encore plus. Et puis, il y a pas mal de fausses notes en fait par rapport à la saga. Enfin, on a parlé de Sarah Connor avec Julie là, qui donc meurt par un cancer. Enfin, c'est pas possible quoi. Cette Valkyrie qui meurt d'un cancer, c'est terrible quoi. Et mais il y a des gars qui sont pas bien placés avec le Terminator parce que bon bah c'est Schwarzy, donc faut faire aussi des blagues et tout. Et là c'est moi ça m'a fait rire sur le moment, mais ça joue contre le personnage. C'est pas bien placé par rapport au personnage.
Il met des lunettes à la Elton John pour reprendre la scène. La scène de T2. Il y a des gags, il parle à la main quand il tend sa main parce qu'il comprend pas ce qu'on lui dit.
Ouais, c'est un film blague un peu. Enfin, il y a des répliques trop blagues.
Après ça c'est Arnold qui a pris le dessus. Après lui il était assez Arnold il comprend le perso aussi. Ça c'est un truc qu'il faut vraiment préciser, et du coup c'est pour ça qu'il est jamais même dans des merdes comme Terminator Genisys, on va y arriver, il est pas vraiment il est pas déplacé quoi, c'est-à-dire qu'en fait il connaît vraiment le perso. Une des raisons pour lesquelles Cameron l'a casté au début, c'est quand Schwarzenegger lui expliquait que le personnage du Terminator, quand il recharge en fait son arme, il ne devrait même pas regarder en fait son geste. Il devrait vraiment être en train de fixer sa proie et en fait de continuer à recharger son arme comme ça quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est là où Cameron s'est dit « Ah, mais en fait, il comprend le perso même mieux que moi, en fait. » Donc voilà, Arnold, là-dessus, il y a ça. Mais effectivement, et après, il y a le Arnold blagueur, tout ça, etc., qui sait que en fait, en gros, il y a un humour un peu décalé qui est lié à l'aspect machinal du personnage, quoi. Et qu'en fait, ils l'ont poussé dans certains extrêmes. Et effectivement, dans T3, ça va un peu trop loin.
Mais il y a une bonne fin avec le personnage, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc dont on n'a pas parlé dans T2, mais l'histoire d'amitié dont parlait Julie, ça, c'est un truc qui est pareil. C'est atypique, en fait, dans le cinéma américain. C'est-à-dire que tout à coup, on comprend qu'une machine peut avoir une âme. Ça, c'est chez les Japonais, ça pose pas de problème. Ça, hein, que les robots. Mais chez les Américains, en général, ça marche pas comme ça. Hein. C'est-à-dire que moi, je cite toujours cet exemple-là, mais dans Johnny 5, dans Short Circuit, le robot, il faut qu'il soit frappé par la foudre pour avoir une attitude bonne. Donc, il y a une espèce de touche divine, en fait. Ouais. Cameron ne lit pas comme ça, en fait. Il est plus japonais, vraiment, sur ce point-là. Et je trouve, dans T3, il a au moins cette faculté de travailler à bon escient, de savoir où placer l'héroïsme, en fait, du personnage.
Et après, moi, je pense Pardon, vas-y.
Non, je voulais juste dire qu'il y a une autre déception dans T3, t'en as parlé rapidement, mais c'est vrai qu'il y a forcément ce côté surenchère par rapport au T8. Enfin, quand tu vois le fossé entre le T800 et le T1000, tu t'attends forcément à un truc complètement fou dans le troisième. Tu viens au moins pour ça, quoi. Et là, tout ce que t'as, comme tu dis, une version BT qui peut se connecter.
Mais parce que je pense que c'est la grosse distinction entre un bon faiseur de blockbuster comme pouvait être Mosto à l'époque et un vrai auteur de blockbuster comme l'était Cameron. C'est que Cameron, en fait, quand il visualise en fait un personnage comme le T1000, en fait, d'un seul coup, il a des millions de références en fait graphiques qui lui viennent en tête. Moi, je sais que toute la scène finale dans l'usine, c'est du Salvador Dali, quoi. Le personnage de T-1000, quoi, c'est hallucinant, quoi. Il prend toutes les formes de ses victimes, qui en plus un concept de SF qui vient du Body Snatcher. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Il y a des images que t'avais jamais vues dans un film d'action. C'est-à-dire que t'as Sarah Connor qui lui balance un coup de fusil à pompe dans la tronche, et là, d'un seul coup, tu vois le plan à travers le trou dans la tête qui se reforme. C'est des trucs dans le cinéma, parce que ça vient aussi du cinéma d'action des années 80, ces films-là, quoi. T'avais jamais ça. T'avais pas ça clairement pas dans des canons, clairement pas dans des trucs comme ça, tu vois. Donc là, d'un seul coup, utiliser la SF et lui donner une espèce des sensations complètement dingues, c'est la grosse distinction entre un T2 qui était un vrai blockbuster d'auteur et un T3 qui était un film de bonne facture, mais finalement assez anecdotique.
C'est un lecteur de comics, hein, Cameron aussi.
Si on veut avoir le temps de parler de Dark Fate, les amis, sans 6 heures, il va falloir qu'on aille assez vite sur Salvation et encore plus sur Genisys éventuellement, parce qu'en plus on a consacré un épisode entier à l'époque de sa sortie, au tout début de nos ciné, parce que c'est sorti en 2015, Genisys. Sur Salvation, qu'est-ce qu'on peut dire à part que Christian Bale fait ce qu'il peut?
Bah, encore une fois, on change de John Connor. C'est-à-dire qu'en gros, John Connor, c'était Nick Stahl dans le 3, puisque, j'ai oublié son nom, merde, le gosse du T2, là,
Edward Furlong,
avait des gros problèmes de danse, voilà. Donc là, c'est Nick Stahl, et là, de nouveau, ça change, et c'est John Connor, c'est comme tu as dit, Christian Bale. Et après, l'idée, c'était de, alors, les droits sont perdus, sont re-repris, en fait, là, Cameron n'a vraiment quasiment plus rien à voir, Arnold n'a plus rien à voir, puisqu'il est pas dans le film, quasiment, en fait, il a vraiment une apparition au final, mais c'est même pas lui qui joue le truc. Et en gros, l'idée, c'était, bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec Terminator, puisque c'est une fausse suite entre guillemets à Terminator 3. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et ben en fait on va faire vraiment la guerre des machines. Pourquoi pas, hein, conceptuellement, enfin je veux dire il y avait de l'idée. Le problème, c'est que c'est un vrai film, entre guillemets, de producteur qui n'a pas vraiment d'assises sur le film non plus. Ouais. Parce que fondamentalement, on va faire un collage. On va prendre un mec comme McG parce qu'il sait faire des gros blockbusters. On va prendre des scénaristes à la mode. À l'époque, tu avais le frère de Nolan, je crois. Tu avais le showrunner de The Shield. Et en fait, voilà, en fait, on prenait les gens qui étaient sous la main. On avait un Christian Bale qui sortait de Batman et tout ça, de Dark Knight. Et donc, voilà, c'était un espèce d'assemblage de super blockbusters, en fait, qui n'a pas. Déjà, un, je trouve pas vraiment d'âme.
Ouais.
Pareil, il souffre du même problème que T3. Il a une grosse scène d'action à un moment donné au milieu qui est assez.
C'est un gros film à problème, hein, ce terme.
Voilà, et c'est un film qui est remonté dans tous les sens aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de vision, en fait, dans ce film-là. Il y a des idées, il y a des choses. En fait, on va dire, bon, voilà, on va vous montrer les T600 pour faire évoluer la technologie, pour vous montrer tout ce qu'il y a autour, quoi. Il y a des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, moi, je vois pas comment ils auraient pu faire une vraie trilogie autour de ça, en fait, qui tiennent la route, en fait, scénaristiquement parlant, ouais. Et qui s'inscrivent en plus dans une saga qui existe et qui est très populaire. Parce que quoi qu'on en pense, T1, T2, c'est des films, c'est des bornes en fait de la SF, et c'est des films très populaires dont les instigateurs sont très connus aujourd'hui et très populaires aussi, quoi. Donc un Cameron ou un Schwarzy, ils ont défini leur carrière avec ces films-là. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, en fait, tu peux pas t'inscrire là-dedans et faire juste un peu n'importe quoi pour voir ce qui fonctionne à la mode. C'est arrivé 5-6 ans avant Mad Max Fury Road, on va pas évidemment voilà, mais je dis ça parce que c'est un film c'est un post-apo. Oui. Donc c'est vraiment il y a de ça aussi dans le truc et là-dessus tu vois, enfin c'est même pas qu'il y a un fossé, hein, évidemment, non, mais ce que je veux dire c'est que tu vois
pas diagramme, moi, je plusieurs fossés. Hein.
Non mais la scène d'action en soi elle peut être sympa. Moi les seuls endroits où je reconnais un tout petit peu McG parce que j'avais des espoirs entre guillemets sur McG au début de sa carrière sur le premier Charlie's Angels parce que je trouvais que c'était un mec qui était complètement enfin qui faisait des films assez légers et vraiment voilà mais qui avait du savoir-faire en fait et puis il y avait un ton, une personnalité.
Ouais.
Le seul moment où tu reconnais un petit peu, c'est quand John Connor utilise son radio cassette et qu'il écoute du coup de Be Mine des Guns N' Roses, où tu dis ah oui d'accord effectivement c'est le perso de, mais c'est la seule fois où je me dis c'est le perso du 2 en fait. Il n'y a pas un seul moment où je me dis c'est John Connor ce perso en dehors de ça. Et ça c'est un gros problème. Et après il y a cette espèce de truc où on essaye de s'attraper les fans, quoi. C'est-à-dire que l'apparition du T800 à la fin pour refaire en gros la scène finale du premier dans un blockbuster à 200 millions, t'as envie de leur dire vous avez vraiment que ça à proposer en fait. Et en plus là, ça avait été tout un bordel parce que ils savaient pas s'ils allaient avoir les droits de enfin Arnold était gouverneur à l'époque. Donc ils voulaient absolument pas bosser sur le film, ils voulaient surtout même pas donner en fait 2 heures de son temps ou 5 heures de son temps, je sais pas combien de temps ça prend pour scanner son visage. Et donc du coup en fait il a fini par accepter de donner son image. Mais parce qu'ils ont retrouvé un vieux moule de Stan Winston en fait qu'ils ont utilisé pour le scanner pour qu'on le voit le personnage du T-800 avec la chair avec tout à l'écran. Et ça, c'est un ratage complet, cette scène. C'est-à-dire qu'on dirait un débile léger, le perso. Donc
on dirait Donkey Kong.
Voilà. Et du coup, il y a tout un tas de trucs comme ça qui fonctionnent pas. Et en plus, bon, bah, le film, de toute façon, c'est bidé. Le score est escompté, donc du coup, ça n'a vraiment pas donné de suite, quoi, en fait. Oui.
Et ça a été le même coup pour Genesis. Un souvenir particulier autour de Genesis.
Ça, c'est vraiment une sombre merde. Mais d'ailleurs, ce que tu disais par rapport au fait que Terminator a été déterminant pour Schwarzy et notamment Cameron, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui explique la clémence de Cameron quand il parle des films qui ont donné suite à T2. En fait, genre, à chaque fois, il va dire que c'est plutôt pas mal.
Il est interviewé à chaque fois, ouais.
Et c'était le cas pour Genesis qu'il a chaudement recommandé avant de faire brusquement volte-face.
Ah ouais, il a fait. Julie a raison, il avait fait toute
une vidéo, mais tu vois bien qu'il a fait ça pour défendre le film. Ah ouais, fait ça pour
mais oui, c'est ça, c'était pour expliquer qu'en gros, voilà, c'est lui qu'on veut voir, mais avait-il vraiment vu le film pour l'encenser ainsi, quoi? Parce que c'est vraiment. Je sais pas par où commencer, un gros chèque, j'espère. Parce que...
Moi, je suis même pas sûr qu'il ait touché un chèque pour ça, hein. je pense qu'il l'a juste fait.
Il l'a fait de bonne foi au début, peut-être.
Sa théorie à Cameron, c'est que tu peux pas faire un Terminator sans Arnold. Ça n'a aucun sens.
Ouais,
et d'ailleurs, ça s'est vérifié avec Terminator Salvation, en fait, avec Terminator Renaissance en français. Parce que voilà, c'est un film que personne ne voulait vraiment voir. Et qui propose finalement pas grand-chose, qui a été remonté dans tous les sens, qui a eu plein de... Enfin, voilà. Donc du coup, c'est vrai que tu pouvais pas vraiment recréer quelque chose. Mais comme c'est une saga qui reste, Terminator Genesis, encore une fois, les droits ont de nouveau été rachetés.
Ah ouais, c'est
un bordel. Il faut savoir que Cameron, la raison pour laquelle il y a Dark Fate aujourd'hui, c'est que Cameron a récupéré les droits.
Ouais.
Et cette année. Donc... il a mis le truc en place, voilà. Et c'est
là
pour
au moins
ça que
supervise le truc, quoi.
Voilà. Mais après, l'idée générale d'un truc comme Terminator Genesis, c'est que les quelques idées qui font sens, Encore une fois, c'est Cameron qui l'aura soufflé. Mm. Mais il leur a juste dit, vous faites ça dans votre coin. Et puis en fait, lui, il est parti, il a fait autre chose, quoi.
Ouais.
Et au final, les gens, voilà. Après, il y a tous ces problèmes. Et là, en fait, je pense que, effectivement, on avait fait un Allociné, donc c'est pas vraiment la peine de revenir sur Genesis. Il y a aussi une petite série télé.
Sarah Connor Chronicles.
Ouais, qui, là, vraiment, on est borderline série Z, hein, moi, je trouve, hein, dans la mythologie et tout ça. C'est les deux, trois épisodes que j'ai vus, c'est une catastrophe. C'est Lena Headey qui joue le rôle. Là, c'est Cersei dans Headey.
J'ai pas osé regarder, moi, en fait. Genre, apparemment, c'est les chroniques de Sarah Connor, c'est la suite de T2.
Tu sais quoi, ça ressemble à ce que les Italiens, ils essayaient de copier Terminator, en fait. T'as Atomic Cyborg, genre de trucs. T'as des trucs comme ça, moi, je trouve, dans cette série télé.
C'est les Italiens qui prennent leur vengeance pour Piranha 2.
Non, c'est vrai. Ça fait vachement pitié, quoi. Après, j'ai pas tout vu, donc les gens vont me dire qu'à partir du 14e épisode, c'est bien.
C'est souvent ce que disent les gens, effectivement, pour essayer de nous convaincre de regarder des séries pourries. Passons du coup directement à l'actu du moment, de Terminator Dark Fate. Julie, que tu nous disais tout à l'heure, je me rappelle plus quels étaient les trois mots que tu avais employés.
Pas si mauvais.
Ça fait déjà 6 heures qu'on a commencé.
Ouais, c'est ça, au moins 6 heures.
C'était pas si mauvais.
C'était pas si mauvais parce qu'on
partait de Genesis.
Parce qu'on partait de Genesis, voilà, exactement. Et moi, donc, forcément, j'y suis allée vraiment à reculons. J'avais plusieurs craintes, en fait. J'avais très peur, en fait, d'avoir un Genesis 2. Mais heureusement, donc, ce qu'ils ont eu le bon goût de faire, c'est de occulter complètement les trois films dont on vient de parler, donc le 3, le 4 et le 5. Et il y avait quand même aussi des raisons de s'enthousiasmer, donc j'étais un peu mitigée au début, mais pour moi les raisons de s'enthousiasmer c'était le fait qu'il y ait le retour de Cameron, donc qui supervise le projet, qui participe à la réécriture du scénario, et aussi donc de Schwarzenegger, Linda Hamilton et d'Edward Furlong, plus étonnamment. Donc ça peut être à la fois génial ou catastrophique, enfin, on sait très bien ce que ça peut faire quand on fait revenir des vieux acteurs. Et moi, j'étais surtout encouragée à l'idée qu'ils aient l'envie de refaire une toute nouvelle trilogie. Que Cameron se soit dit, si ce film marche bien, on continue parce qu'on a une histoire à raconter, on sait où on va. Donc, au moins, ils partent pas, ils naviguent pas à vue, quoi. Et surtout, donc, ils ont vraiment l'envie de faire un passage de flambeau, pas juste faire du fanservice pour les nostalgiques de T1 et T2. Et donc, pour ce faire, créer des nouveaux personnages et étoffer un peu la mythologie. Et ça, je pense que, en tout cas, le film a réussi à le faire. C'est pas un excellent film, loin de là, mais c'est pas un mauvais film non plus. Là où je trouve qu'il est réussi, c'est par rapport au nouveau Terminator, donc le Rev 9, qui, pour moi, je pense que Luna, j'ai oublié son prénom, Gabriel Luna, est un bon successeur à Robert Patrick. Qu'effectivement, la nouvelle capacité qu'il a, j'ai le droit d'en parler.
De toute façon, on le voit dans la bande-annonce.
Oui, c'est ça, voilà. On le voit pas trop, en fait.
Dans
la bande-annonce, on le voit se séparer en deux. Hein.
Ouais,
mais
c'est ça,
c'est cool en fait.
De toute façon, je pense qu'on est obligé de spoiler on parle de Schwarzy, quoi. Mais ouais.
Allons-y, spoilons.
Mais il y a le fait qu'ils puissent se dupliquer et donc en fait que donc les deux forment des unités autonomes et donc deux fois plus puissants. Enfin bref,
avec leurs faiblesses et leurs points forts chacun. Ouais. C'est ça. C'est sympa. Hein.
Ça, c'est assez fascinant. Ouais.
C'est assez rigolo.
Je trouve aussi que le personnage de Daniela Ramos rappelle énormément Sarah Connor, quoi. C'est vraiment la Madame Tout le Monde, en fait, qui se demande ce qu'elle fait là, mais pourquoi est-ce que vous venez me sauver, etc. Qui elle aussi a une transformation. Enfin, on l'a pas encore vraiment vue, mais qui a une transformation plutôt réaliste. Et finalement, le fait que le film occulte complètement les trois précédents, ça évite d'avoir des retours en arrière hyper laborieux où on nous réexplique tout ce qui s'est passé. Et là, c'est fait assez rapidement, quoi. Ouais. Enfin, on reprend des scènes.
On se pose pas la question, surtout. C'est ça qui est assez dingue. Ouais. Moi, en fait, tout le film, je me suis pas du tout posé la question. J'ai vu tes 3, tes 4, tes 5, mais en fait, tu te poses pas la question. Tiens, ils ont existé, mais en fait, tu t'y penses jamais. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment donné où il y a juste en sortant.
C'est contradictoire.
En sortant, tu peux juste te dire, tiens, en fait, les idées éventuelles de Genesis que Cameron a essayé d'infuser en fait et qu'ils en ont fait n'importe quoi.
Ouais.
Il les reprend et il les arrange en fait. Donc il y a quelques trucs comme ça, mais c'est vraiment ça s'arrête là, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec et à ma grande surprise hein, aussi, parce que c'est un film qui est extrêmement mal vendu, mais vraiment. Hein, moi, je m'attendais à un niveau Genesis qui me paraissait surprenant de la part de Tim Miller, parce que c'est pas un mauvais réalisateur. Je pense même que c'est s'il y a une réussite dans Deadpool, c'est à lui qu'on la doit, plutôt qu'à Ryan Reynolds et au scénariste. Mais là, je pense que c'est un des problèmes du film et en même temps une des qualités aussi, parce que ça se voit que c'est quelqu'un qui voulait faire ce film en fait, que c'est une saga qui lui tient à cœur, qu'il aime vraiment ça. Après, le problème de Terminator Dark Fate, c'est que ça s'ouvre en fait sur, je le dis, enfin voilà, pour spoiler, ça s'ouvre sur la mort de John Connor en fait, qui dans une scène qui se passe en 98, donc c'est-à-dire très très peu de temps après que le Judgment Day était annulé, le jour du jugement était annulé. Et en gros, c'est pas un nouveau Terminator, un nouveau T-800, quoi. Et dessous les yeux de Sarah Connor. Et d'un seul coup, ça pose en fait... Alors moi, je pense que la scène est sympa en soi, parce qu'elle est surprenante. Je pense que Cameron aurait fait un chef-d'œuvre avec cette scène. Il aurait fait une scène absolument incroyable, de la mesure de la scène où il apparaît devant Sarah Connor pour la première fois dans T2, en fait, dans les psychiatriques. Ça aurait été un truc, je pense, comme ça, complètement dingue. Enfin, c'est comme ça que j'imagine qu'il l'aurait fait. Et voilà. Mais en soi, c'est plutôt sympa, c'est bien foutu. Et surtout, ça donne le ton, en fait, pour deux personnages importants de la saga, qui sont Sarah Connor et le T-800. Mm. Et comment, en fait, les faire évoluer par rapport à ce que tu sais déjà d'eux. Donc, en fait, le film se pose cette question, et tu sens que Cameron, donc, est derrière, de se dire, bon, on a fait T2, on oublie les autres, comment on va surprendre les gens vis-à-vis de leur relation, de tout ça, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement bien fait. Il a raison que Cameron, personne d'autre... Enfin, tu peux... Je sais pas si tu peux faire un Terminator sans Arnold, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que personne ne peut reprendre le rôle de Sarah Connor. Mm. Elle est impériale dans le film Linda Hamilton. Impériale. C'est vraiment un des trucs sur lequel aussi je ne m'y attendais absolument pas. Mm. Elle est vraiment formidable, quoi. Tout en étant dans la continuité de son personnage. Et en gros, l'histoire, après, ça fonctionne, c'est structuré exactement comme T2, quelque part, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un road movie où on va chercher le personnage de la nouvelle, donc John Connor, puisque c'est ce que est le personnage, et comment on va essayer de la sauver quand on essaye de l'attaquer, quoi. Et sauf que la grosse distinction, c'est que c'est le pendant presque inversé de T2, c'est-à-dire si T2 se passait dans Californie, dans les zones un peu pauvres, etc., etc., bah là, la plupart du film se passe au Mexique. Et ce contexte-là, à travers les États-Unis, à travers la frontière, etc., etc., est traité.
Ouais, il aborde des problématiques très contemporaines, quoi.
Voilà, mais c'est traité, c'est-à-dire que c'est pas comment dire, un blockbuster, tu vois, lambda qui aborde le truc. C'est-à-dire, il y a tout le passage où il traverse la frontière, tous ces trucs-là. Après, moi, je pense que les grosses réussites du film, c'est ça. Effectivement, les nouveaux persos qui sont plutôt bien et tout. On se demande où ça peut aller avec ça, quoi. Je pense que le gros problème de ce film, et je pense que c'est là aussi où ils ont du mal à le vendre, c'est que c'est ces scènes d'action. C'est-à-dire, et donc c'est là où rentre en ligne de compte Tim Miller. Il y a des scènes sympas, correctes. Mais t'as même pas, pour moi, en fait, une scène comme la scène de Terminator 3 avec le camion, quoi. C'est-à-dire que t'as pas un truc qui emporte, quoi, comme ça, même si c'est vraiment à part dans Terminator 3 et que c'est le seul truc vraiment réussi du film, on va dire. Là, le problème, c'est qu'il y a une scène, par exemple, dans un avion cargo, où moi, je comprenais pas quand je voyais ça normalement, je me dis, mais qu'est-ce que ça fout dans un Terminator ? Sauf que quand tu vois comme elle est conceptualisée à la base... Tu te dis, ah oui, en fait, non, oui, ça pouvait être pas mal parce que c'était un truc avec de la zéro gravité, etc., etc. Et si c'était Cameron qui avait réalisé cette scène, de toute évidence, ça aurait été une scène complètement dingue. Et là, le problème, c'est que c'est une scène qui est assez pauvre, je trouve, qui démontre les limites, en tout cas, peut-être qu'il n'a pas eu le temps de la faire correctement, mais qui démontre les limites de Tim Miller en tant que réal. Aussi sur, on va dire, parce que tu comprends plus rien ce qui se passe, en fait, dans cette scène. Voilà. Et enfin, le dernier truc pour moi, qui est assez chouette, en fait, dans le film, vraiment, c'est de revoir Arnold comme ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'humour sur le personnage d'Arnold. C'est un personnage qui a encore une fois évolué parce qu'il est resté sur Terre et il s'est mis à culpabiliser d'avoir tué John Connor parce qu'il a accédé à une famille. Et en fait, donc, dans la même logique que le T-800 de T2, il apprend à s'humaniser. Et en fait, c'est lui qui donne en fait plein d'infos à Sarah Connor pour la mettre sur la piste dès qu'il y a un Terminator en fait qui débarque sur Terre et qui est censé foutre le bordel, quoi. Donc, t'as tout un truc comme ça. Et t'as ce jeu en fait où l'humour fonctionne avec lui. Parce qu'il est cohérent, c'est cohérent dans l'évolution du personnage. Et là, ça, j'en parle pas, mais il a une sortie de piste que je trouve formidable dans le film. Voilà. Donc, vraiment, à la fois pour Terminator en soi, et à la fois pour Arnold. Mm. Si Arnold s'arrêtait de faire du cinéma maintenant, pour moi, ça serait bien. Mm. Très bien. Tu vois, donc voilà.
Julien, pour conclure.
Moi, je suis de l'avis de mes collègues.
T'avais dit rideau tout à l'heure. Alors,
Non.
Certainement, j'en ai pas parlé.
Je vais pas en parler parce que si vous avez pas vu le film, déjà, on a spoilé comme des. Enfin, Staff, surtout, il a spoilé comme un cochon.
Ouais, mais on fait ça d'habitude.
Mais il y a une.
Joker, il est fou.
Il y a un gag avec des rideaux. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que. En fait, moi, ce qui me fait plaisir avec ce Terminator-là, c'est que t'as l'impression qu'auparavant, les mecs, ils étaient en train de se creuser la tête à se dire, ils avaient cette franchise, ils disaient, putain, mais merde, comment on peut faire une suite, en fait? Ouais. Et en fait, depuis T2, c'est la première fois que je me dis, c'est pas ça. C'est le truc à l'envers. C'est que les mecs, ils se sont dit, ah, mais on peut faire une suite. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, ah, mais oui, mais ça peut continuer comme ça. Il y a quand même, alors, encore une fois, moi, je suis d'accord, c'est un film qui est loin d'être parfait. Il y a plein de soucis et tout, mais il y a malgré tout ce truc qui est fondamental et qui est le principal de se dire, ah non, mais c'est logique en fait, ça peut aller par là. T'as envie de les suivre là, en fait, du coup. Moi, j'ai envie de suivre Arnold dans ce truc-là. J'ai envie de voir ce que Linda Hamilton va faire. J'ai envie de voir cette évolution, d'une part, du futur, et puis des nouveaux héros et des nouvelles promesses, en fait, de l'humanité là-dedans. J'ai envie de voir tout ça, quoi. Et rien que ça, en fait, c'est du cinéma qui te redonne envie, en fait. C'est tellement rare. Puis alors, l'autre truc... Et ça me semble important de le signaler parce que Stéphane le disait, ce film, il a été très mal vendu. Ouais. Il a été condamné. Moi, je l'ai vu partout, en fait. Et t'as envie de dire au mec, mais déjà, arrêtez de juger un film sur sa bande-annonce.
C'est vrai, Stéphane.
Un film n'est pas Stéphane. Sa bande-annonce. Et puis d'autre part, regardez un peu aussi qui est justement à la barre, tu vois. Et Tim Miller, c'est un gars qui est un proche de Cameron depuis très longtemps. Ouais. C'est un mec qui a une vraie connaissance
des effets spéciaux
visuels, et tout. C'est un mec qui aime ça aussi, comme Cameron, quoi. Je veux dire, il suffit de voir Love, Death and Robots.
C'est son métier à la base.
Non mais il aime la SF, quoi. Ouais. Il y a des idées, par exemple sur le générique d'ouverture, il y a une idée de mise en scène et de narration pour te montrer les fameux crânes humains que tu as vu tout le temps et tout, où il te prend le temps de te poser le truc. Ça, c'est une idée d'un mec qui aime la SF, je trouve, moi, et qui a envie de voir cette image-là au cinéma. C'est ça, en fait, ce qui est hyper agréable dans Terminator Dark Fate. Alors oui, les scènes d'action, elles sont pas toujours à la hauteur. C'est un film qui a été fait hyper vite aussi, hein. C'est un truc qu'il faut préciser. Bon, après, T2 aussi avait été fait hyper vite, mais T2, voilà, c'est Cameron, là, c'est pas Cameron. Mais c'est un film qui a été fait hyper vite, ça se sent sur plein de trucs. C'est un film où t'as jamais vraiment l'effet waouh que tu pouvais avoir sur les deux premiers films au niveau des effets spéciaux. C'est difficile d'avoir l'effet waouh aujourd'hui. Tu un petit peu sur la séquence de qui se passe à la fin des années 90 au début, mais t'as pas d'effet waouh comme tu peux les avoir, je sais pas, dans Jimmy Man ou des trucs comme ça, ni dans les scènes d'action, t'as pas ce truc là et tout, mais en même temps, c'est un film qui a sa propre logique de film, qui n'a pas sa logique de marché, et c'est un film qui fait exister son univers, qui est un truc qui me manque, moi, au cinéma, quoi. C'est il y a une scène où il voyage sur un train au sommet, et les gens, ils ont du mal à monter sur le train, et tout à coup, tu te retrouves dans un contexte qui existe. C'est comme la séquence avec la mer au début dont je parlais. Ouais. Je n'irai pas plus loin parce que je veux te laisser la surprise, Thomas, en fait. Mais il y a une séquence donc avec le train, et tu te dis que tout à coup, ça existe. La gamine, elle est présentée, et tu vois, elle traverse un immeuble, et puis ça existe. Je vois pas ça, moi, dans les blockbusters aujourd'hui, le mec qui te dit, bon, bah voilà, il y a un ancrage là-dedans et tout. Et dernier truc, c'est un... Je sais plus, c'est une C-17. Enfin bon,
c'est un R.
C'est un R, donc il y a un peu de fuck. L'héroïne, là, Mackenzie, là, met des mandales. Il y a un peu de gore une séquence un peu à la...
Ouais, super,
un truc de Japanimation, là, tu vois, où le méchant, il est en train d'empaler des gars et tout. Enfin, ça aussi, ça fait plaisir, tu vois, dans les blockbusters aujourd'hui. Film très imparfait, Dark Fate, moi, mais qui fait quand même plaisir, vraiment.
On appelle un film généreux, Julie.
Après, le truc que je me sentais obligée de dire, c'est que forcément, le film échappe pas à 2-3 lourdeurs, mais ça, on pouvait s'y attendre. Genre, forcément, le retour de Linda Hamilton se fait que la phrase I'll be back, de toute façon, elle est dans le générique et tout. Et par rapport à cette histoire de rideau sur laquelle je m'étendrai pas très longuement, c'est juste qu'elle est forcément un peu ridicule. Si je vous la décris, il n'y a aucun moyen qu'elle ne passe pas pour un truc complètement ridicule, alors que c'est pas du tout idiot, en tout cas, ce qu'ils ont voulu amener, les questionnements qu'ils ont voulu amener. C'est qu'est-ce que fait un Terminator une fois que sa mission est accomplie. Je pense que c'est assez prometteur.
Tout en gardant son ton à lui, en fait. C'est ça qui est drôle, en fait.
Elle est géniale, cette scène.
Voilà.
Quand il parle de sa femme, c'est fabuleux.
Et ça, apparemment, c'est une idée d'Arnold, en fait. C'est lui qui a. J'ai vu une interview la récente, je crois que la nana n'avait pas le droit de balancer son interview sur YouTube, mais elle l'a fait, quoi. Parce qu'il y a encore, on est encore sous embargo, alors on enregistre.
Et,
en fait, j'ai vu une interview d'Arnold qui dit ouais, ça vient de moi et tout, c'est moi qui ai suggéré cette idée, et en fait, qui a plus ou moins improvisé sur place, en fait, toute cette scène qui est vraiment une scène de 2 minutes comme ça, un petit monologue, quoi.
Incroyable, ouais. Arnold. Moi, ça m'a fait très tellement drôle. Plaisir de le revoir jouer.
Sacré Arnold. Il nous surprendra jusqu'au bout. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Quentin à la technique. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.